Merci d'écouter RFI, il est 10h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
Feu vert de part et d'autre pour un cessez-le-feu à Gaza dès demain, sans doute à partir de 6h30 temps universel. Si pour l'heure les armes ne se sont pas encore tues, de premiers échanges entre prisonniers palestiniens et otages israéliens sont prévus dès ce dimanche. Sur le plan humanitaire, nous le verrons, l'accord prévoit l'entrée chaque jour de 600 camions d'aide dans la bande de Gaza. Nous serons à Belgrade dans cette édition où des milliers de Serbes ont protesté hier devant la télévision nationale. L'occasion pour les manifestants de contester le travail des journalistes jugés passifs depuis l'effondrement meurtrier du toit d'une gare, c'était en novembre dernier. À deux jours de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, nous verrons qui pourrait remplacer Justin Trudeau à la tête du Parti libéral canadien. Il pourrait s'agir de Chrystia Freeland, plutôt frileuse à l'égard de la nouvelle administration américaine. Et puis, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse en fin de journal, le Fido, c'est ce week-end à Ouagadougou. Dimanche à 6h30, temps universel. Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza entrera donc en vigueur dès demain matin, selon un responsable qatari. Lors de cette première phase de l'accord de trêve, 95 prisonniers palestiniens seront libérés contre 33 premiers otages israéliens. Sur le plan humanitaire, cette fois, le cessez-le-feu actera une augmentation de l'aide à Gaza. Depuis des semaines, seuls 40 à 50 camions sont autorisés à entrer quotidiennement dans l'enclave. Alexandre Chatillon est cofondateur et directeur de l'ONG Supernova, présente dans la bande de Gaza depuis 2 ans.
Pendant 6 semaines, on va pouvoir faire entrer 600 camions. 600 camions, ouais. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. C'est le niveau d'avant la guerre. C'est libéraliser le volume de camions qui attendent à l'extérieur de la bande de Gaza depuis des mois. C'est permettre d'apporter de l'eau, à manger, des vivres à des gens qui ont vécu pendant 15 mois une situation insoutenable. Il faut vraiment se rendre compte que ce que c'est vivre dans des tentes, ne pas avoir à boire, ne pas avoir à manger, ne pas se laver dans des conditions d'été très fortes, 40 degrés en juillet quand j'y étais. Puis là, des conditions d'hiver, on vit dehors avec des habits qu'on a sur soi depuis plusieurs mois. Donc des conditions difficiles. Et c'est très bien qu'il y ait des camions qui rentrent.
Alexandre Chatillon, alors que dans l'enclave palestinienne, pour l'heure, les bombardements se poursuivent. Les médecins de Gaza assurent que 5 personnes sont mortes ce matin dans le quartier de Mawassi, à l'ouest de Ran Younes. Par ailleurs, toujours ce matin, l'armée israélienne fait savoir que le sud de Jérusalem a été visé par un projectile lancé depuis le Yémen. Des explosions ont été entendues après le déclenchement de sirènes dans la ville. En Iran, 2 juges de la Cour suprême assassinés ce matin. Ils ont été tués à Téhéran devant le palais de justice par un homme armé. L'assaillant aurait ensuite retourné son arme contre lui, selon l'agence officielle de l'autorité judiciaire en Iran. En Serbie cette fois, l'accident qui pourrait faire basculer la révolte. Une étudiante a été grièvement blessée jeudi à Belgrade lors d'un des hommages quotidiens aux victimes de la guerre de la gare de Novi Sad. Le mouvement anticorruption grossit en effet dans le pays, toujours depuis l'effondrement meurtrier du toit de cette gare, pourtant tout juste rénovée. Et à présent, les protestataires reprochent aux journalistes de la principale télévision serbe de ne pas faire leur travail. À Belgrade, Laurent Ruy.
Sur des centaines de mètres, le boulevard est rempli malgré la nuit et le froid. À l'appel des étudiants et d'intellectuels, des milliers de manifestants se sont rendus devant le siège de la télévision publique qu'ils accusent de défendre un régime corrompu et de conspuer les protestations qui durent depuis plus de 70 jours. Institutrice Maria en veut à cette télévision.
On a le droit de savoir ce qui se passe. La chaîne de télévision RTS doit se comporter en service public pour les citoyens et non au service d'un parti politique. Ils se sont mis au service de la politique et du pouvoir en place.
Tous ont en tête les images du dramatique incident de la veille lorsqu'une voiture avait percuté volontairement une manifestante qui s'en est miraculeusement sortie sans blessure invalidante. Cette attaque a motivé Yelena, employée de banque, à manifester.
Cette vidéo, elle est terrifiante. La situation actuelle est terrifiante. De même que la présentation qu'en fait le président et son attitude envers les manifestations sont terrifiantes. Il porte une part de responsabilité pour ce qu'il s'est passé jeudi.
En décembre, les manifestants s'étaient déjà rassemblés devant la télévision, ce qui leur avait valu un passage au journal, montrant la protestation pour la première fois à toute la Serbie. Cette fois, la télévision publique a interviewé un participant, pendant que quelques employés du média ont déployé une banderole de soutien aux étudiants. Laurent Ruy, Belgrade. RFI.
170 millions d'utilisateurs de TikTok bientôt privés, et ce dès demain dimanche, du réseau social aux États-Unis. L'entreprise chinoise regrette la décision rendue hier par la Cour suprême américaine. Le texte impose aux boutiques d'applications sur nos smartphones de bloquer les téléchargements et les mises à jour de l'application, et ce à partir de demain dimanche. Le sort de TikTok aux États-Unis dépend désormais en bonne partie du futur président Donald Trump. Une taxe douanière Trump, la menace d'Ottawa si le président élu augmente les droits de douane sur les produits canadiens. S'il le faut, nous défendrons fermement et sans ambiguïté le Canada et les Canadiens, a prévenu hier le Premier ministre Justin Trudeau. Justin Trudeau, justement, dont le remplaçant ou la remplaçante à la tête du Parti libéral canadien sera connu le 9 mars prochain. Parmi les personnalités en bonne position pour lui succéder, son ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, très impliquée justement dans l'opposition à la nouvelle administration américaine. Anastasia Becchio.
Elle avait critiqué la stratégie de Justin Trudeau et sa faiblesse face aux menaces de Donald Trump d'instaurer des droits de douane de 25% au Canada. Le Premier ministre avait tenté de l'écarter, mais elle avait choisi de démissionner avec fracas du ministère des Finances, entraînant le gouvernement canadien dans une crise sans précédent. Dans une lettre publiée par Le Devoir et Toronto Star, Chrystia Freeland annonce qu'elle se lance dans la course à la succession de Justin Trudeau. « Nous aimons notre pays autant que vous aimez le vôtre. Si vous nous frappez, nous allons frapper en retour », écrit-elle à l'adresse de la nouvelle administration américaine, appelant à répondre dollar pour dollar. Elle rappelle que le Canada est le plus grand marché d'exportation des États-Unis, plus important que la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France réunis. L'ancienne journaliste de 56 ans, anglophone, aux origines ukrainiennes, est détestée par Donald Trump, qui la qualifie de femme méchante. Il garde un mauvais souvenir de l'époque où l'ex-ministre canadienne avait renégocié l'accord de libre-échange nord-américain en 2018. Chrystia Freeland se dit convaincue de pouvoir encore une fois parvenir à un bon accord. Elle lancera officiellement sa campagne ce dimanche, la veille du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
La précision signée Anastasia Becchio. Un exploit français à Melbourne. Gaël Monfils se qualifie pour le troisième tour de l'Open d'Australie. C'est du tennis, évidemment. Il s'est imposé face au numéro 4 mondial, Taylor Fritz. 3 heures de jeu, un succès en 4-7, validé par un ace final. Gaël Monfils.
Aujourd'hui, j'ai réussi à faire, à l'emmener dans un jeu pour qu'il se sente moins confortable. Si tu lui donnes beaucoup de rythme, forcément, il prend conscience et il tape très fort. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bien mixer entre des balles un peu différentes avec les effets, les variations aussi de mes positions. C'est pas tous les jours où on arrive, tu sais, à appliquer une tactique, et même lui il jouait bien et quand même de continuer, et toi sur des coups j'étais courageux, donc j'étais content, toi, d'aller chercher mes lignes dans le tie break, toi je me suis fait un peu plus violence, ouais, donc je suis content d'avoir accompli un gros match, quoi, tu vois, un gros match, donc je suis content, quoi.
Le tennisman français Gaël Monfils. Et puis, un week-end de placé sous le signe de la danse à Ouagadougou, la capitale du Faso, accueille la 13e édition du FIDO. Irène Tassembedo est directrice du festival.
On a aussi des spectacles que nous allons faire dans le quartier Kamsonre, qui est un quartier populaire, c'est mon quartier d'enfance. Partager des spectacles de danse dans ce quartier-là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, nous allons aller vers eux pour les inciter à venir nous voir dans nos théâtres plus tard. Nous allons faire aussi quelques spectacles au grand marché de Ouagadougou. Un autre spectacle à la cité Ando, c'est un autre marché de légumes où il y a plein de femmes. Et nous allons travailler aussi à la Mako, à la maison d'arrêt. Nous allons faire aussi des spectacles là-bas, dans les écoles. Voilà, on essaye de sortir un peu du cadre du théâtre et aller vers les spectateurs où qu'ils sont. C'est vraiment ça, et on se rend compte depuis des années qu'en fait, on se fait des idées et que nous avons un très, très, très grand public dans les quartiers. Des gens qui viennent nous voir, qui apprécient, qui viennent avec leur tabouret s'asseoir et regarder les spectacles. Donc, peut-être que nous aussi, les artistes, nous devrions redimensionner tout ça, repenser tout ça et trouver les moyens d'aller vers le public.
Irène Tassembedo, directrice du FIDO, au micro RFI de Frédéric Gara.